Philosophie première par le frère Philippe à Saint-Judard, le 16 mai 90.
Allons continuer. Introduire le problème de la subsistance à partir du je suis, change-t-il quelque chose au regard sur l'individuation? L'individuation se pose par rapport au problème de l'âme et du corps. On peut poser le problème de l'individuation aussi en métaphysique. Et comme la subsistance, c'est le problème du comment. Comment, de fait, ma substance va exister. Donc, vous voyez, les deux problèmes sont très proches, subsistance et individuation. L'âme subsiste et le corps individualise. J'allais dire, c'est le pos de la cause matérielle, l'individuation. La manière dont ce principe matériel biologique, qui est du côté du corps, qui n'est pas du côté de l'âme, qui est du côté de la disposition. On touche l'individuation par le chiffre biologique. On ne touche pas immédiatement le point de vue de l'âme. Je suis individué par tout un atavisme. Et on sait qu'on retrouve morphologique et biologique à chaque individu qui dépendent de tout un atavisme. Ça reste très mystérieux, mais c'est un fait. Ça, c'est l'individuation. C'est intéressant comme problème. Personnalité, notre individu, assume donc tout un atavisme. La subsistance se prend du côté de l'âme. C'est mon âme qui subsiste. Mon âme qui est la cause formelle. Subsistance, l'individuation devient tout à fait propre. C'est ça qui est très curieux du reste. Je ne sais pas si on peut le constater scientifiquement. Mais c'est le problème du je suis. Hein. Si l'individuation provient de fait de ce que saint Thomas appelle la virtus instrumentalis, donc qui vient de tout l'atavisme, ex parte materiae. Du côté de la matière, mais ça implique toutes les dispositions. Et le chiffre biologique, est-ce que ça on peut le constater, est donné dès le point de départ du moment où il y a un être nouveau. Et ça se prend du côté de la matière. Quand l'âme vient déterminer cet être nouveau qui a sa détermination propre, il doit y avoir, par le point de vue de l'âme qui subsiste, un changement. Alors, est-il constatable, n'est-il pas constatable? C'est toute la question. Un changement qui fait que par le point de vue de l'âme qui subsiste, il y a une unité formelle qui vient de l'âme, une organisation vitale qui fait que ce qui est ex parte materiae devient du côté de la forme. Passage d'une réalité qui dépend de tout un atavisme, qui est relié à un vivant qui engendre, à l'âme personnelle et qui s'individue. Il y a, j'allais dire, une transformation qui se fait. Puisque d'un côté, le chiffre biologique provient de la cause matérielle, vitale. Et de l'autre côté, il provient de l'âme spirituelle. Oui. Donc, j'allais dire, il y a deux moments dans l'individuation. Saint Thomas n'a pas précisé ça. On pourrait peut-être le préciser, ce qui serait intéressant. Et dans le je suis, on doit le préciser. Dans l'aspect génétique. Parce que dans le je suis, il ne faut jamais oublier, je fais ma philosophie à partir de mon expérience d'un être parfait, c'est-à-dire capable d'avoir conscience de ce qu'il est. C'est un citoyen conscient qui dit je suis. Et donc, dans mon je suis, je saisis par la subsistance de mon âme, mon individuation. Je suis individué dans ma subsistance. Mon expérience actuelle. J'ai conscience d'exister, de pouvoir dire je suis. Je subsiste dans cette autonomie métaphysique de mon je suis. Et cette subsistance se réalise dans une individuation parfaite. Je suis un être individué, jusque dans mes cheveux, même s'ils commencent à tomber, jusque dans mes ongles, dans tout mon corps, les moindres choses. C'est pour ça qu'on peut, par la plante des pieds, rejoindre toute l'organisation. C'est très matériel, par la plante des pieds. Je ne peux pas rejoindre mon âme autrement. Je la rejoins par la plante des pieds. N'est-ce pas ? Ça fait partie de tout un regard particulier. D'autres, c'est à travers l'œil et la pupille de l'œil. Ils découvrent tout. La moindre partie de mon corps, tout y est. Au plan du philosophique, je peux le dire. Puisqu'il y a une unité substantielle. Et que cette unité substantielle se manifeste à travers toute l'organisation de mon corps. Alors que je prends de l'organisation à la plante des pieds, ou au plus intime du fond de l'œil, ça revient même. Je dirais que dans le fond de l'œil, il y a des chances de saisir quelque chose de plus qualitatif que dans la plante des pieds, possible. Mais ce qui est sûr, c'est que la moindre partie de mon corps reflète le tout dans l'âme. Bon, ça, c'est l'analyse, pas tout à fait l'analyse, mais c'est la constatation dans le « je suis actuel ». Par mon âme subsistante qui donne mon autonomie dans l'ordre de l'être. Et ça, mon autonomie dans l'ordre de l'être, je la constate. J'assume toute mon individuation. Cette individuation, génétiquement, je vois, il y a deux moments dans l'aspect génétique. L'aspect qui relève de la virtus instrumentalis. On parle saint Thomas, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'atavisme, du père et de la mère, tout ce qui relève du moment premier de la rencontre des deux éléments qui provient du père et de la mère. Il y a une réalité qui a quelque chose d'unique. Et je dis, il est individué ex parte matériel, ça. Et c'est les dispositions. Et c'est individué. Donc le chiffre biologique dont on parle au point de vue scientifique, ce chiffre biologique provient de fait du côté de la matière. Et il peut s'expliquer indépendamment de l'âme spirituelle. Ce qui se prend du côté de la matière. Lorsque l'âme vient transformer cette réalité, il vit en fonction de son lien avec la source vitale. Tout est changé, puisque tout est porté par l'âme qui subsiste. Mais il y a un passage, donc, ex parte matériel à l'unité formelle et organique qui vient de l'âme. Et cette unité assume ce point de vue des dispositions. Aristote dit, dans tout devenir, aussi bien vital que physique, il y a les dispositions. Quand la forme substantielle est présente, il y a l'unité substantielle et les dispositions deviennent des propriétés. Donc, le passage de la disposition qui se prend du côté de la matière à la propriété qui se prend du côté de la forme substantielle. Ça, c'est dans l'ordre génétique, dans l'ordre du devenir. Vous voyez qu'au point de vue individuation, il y a deux aspects différents. Alors, peut-on le saisir scientifiquement? Peut-on saisir scientifiquement la différence entre la disposition et la propriété? Il faut se poser le problème. Et je le saisis ici à partir de la personne, parce que la personne... Je suis, assume ce devenir. Ce devenir existe tout le temps. Mon corps est tout le temps en devenir. C'est comme ça que il y a un devenir de croissance, il y a un devenir de haut plateau, il y a un devenir de descente. Mon devenir biologique évidemment assez particulier. Quand je suis à ce moment-là, c'est assez particulier. Ça peut aller assez vite, la chute. Puis ça peut durer. Et le haut plateau, il peut durer aussi longtemps. Il y a un devenir, même ici on est en devenir, tout le temps. Ça, c'est la précarité du corps. Et tout ça vient de la matière, du corps, comme tel. C'est toute la philosophie du corps de saisir ce devenir dans la mesure où on le peut. Mais la constatation scientifique se fait toujours par le point de vue de la mensuration. Qu'est-ce qui est mesurable? C'est tout ce qui est du côté de la matière. Et de la quantité. Donc c'est la disposition. Donc le mesurable, c'est la disposition demeurant dans la propriété. Mais la qualité propre de la propriété, qui est un sensible propre, n'est pas mesurable, donc échappe à la connaissance scientifique. Et donc le savant ne pourra jamais constater ce passage, qui est le moment où l'âme est infuse. Je pose ça comme question. Ce que je crois, je vous le pose comme question, parce qu'il faut chercher. Et c'est très important, ça, parce que ça montre que l'individuation, elle est donnée dès le point de départ. Et ça ne peut pas être autrement. Donc le chiffre biologique n'est pas le chiffre de l'âme. C'est le chiffre d'un nouveau vivant engendré à partir de deux autres vivants. Et c'est la rencontre de ce qui est, non pas au sens fort, la conception, mais qui est le premier moment d'un être nouveau. Il se prend du côté de la disposition. Mais si je pouvais constater la propriété, je dirais, ah, l'âme est là. Parce que quand l'âme est présente, il y a une unité substantielle, qualitative, qui se voit dans le point de vue de l'organisation. Mais déjà, la disposition peut organiser. De la virtus instrumentalis, c'est-à-dire en fonction qu'il y a à la source un vivant. Mais c'est tout le problème de l'individuation, ça. Et ce problème de l'individuation a donc, j'allais dire, deux sources, une antérieure à l'âme créée, l'autre provenant de Saint-Homme a raison de dire que l'individuation se prend du côté de la matière. Quand je dis que l'individuation se prend du côté de la matière, faisons attention, c'est une matière vivante. Donc pleine de disposition, pleine de qualité. C'est une matière vivante. Et quand l'âme est présente, tout est assumé par l'âme qui subsiste et donc possède une nouvelle unité. Des substantielles. Alors, je reviens sur ce que je vous disais hier. Quand Maritain distingue individu et personne, il a parfaitement raison au point de vue de l'analyse. Au point de vue de l'analyse, c'est très juste. L'individuation se prend du côté de la matière et la personne se prend du côté de l'âme, du côté de la subsistante. Mais, je ne suis plus dans l'analyse quand je parle du « je suis ». Je suis dans un ordre descriptif. Et dans l'ordre descriptif, je ne peux pas séparer l'individu et la personne. Mais ce que je peux faire, et c'est ça qui peut-être n'a pas été fait, ce que je peux faire, c'est de montrer les deux sources de l'individuation. L'une antérieure à l'âme et l'autre ensuite. J'espère que vous voyez. Faut réfléchir là-dessus. Et c'est intéressant pour toujours ce problème de l'individuation et de la personne. Alors, comme il a été posé avec beaucoup de force par Maritain, il faut y répondre. Il faut montrer que, au point de vue existentiel, individu et personne ne peuvent pas se séparer. Ma vie personnelle est individuée. Jusque dans mes pensées les plus métaphysiques, les plus spirituelles, tout est individué par l'image, par l'imagination. Et donc, mes concepts les plus qui ont un mode plus universel, les plus purs, sont toujours liés à mon individuation. Ils ne spécifient pas les concepts. Les concepts sont spécifiés par la réalité dans sa détermination. Mais dans leur exercice, ils sont individuels. Métaphysique d'Aristote et celle de saint Thomas, bien qu'elles puissent avoir les mêmes principes, sont distinctes subjectivement dans leur exercice. Et je dirais que rien n'est plus individué que l'effort de la métaphysique. Parce que je crois que plus on pousse loin la connaissance, plus l'aspect, le lien avec l'image est important. Moins l'image détermine, mais plus l'image joue un rôle dans l'ordre de l'exercice. C'est normal, puisque nous avions dit que le propre du « je suis » c'est d'unir l'expérience la plus subjective et l'expérience la plus objective. Et donc il y a une répercussion de ça jusque dans la métaphysique. Parce qu'on aurait une petite tendance, vous voyez, à dire à l'intuition, c'est le corps, c'est juste l'âme. Là, un peu chez les stoïciens, il y a ça. L'individu, universel, la loi. Alors là, je suis au-delà des passions. C'est pas juste. C'est pas juste de dire ça. C'est que de fait, je suis individué dans toute mon activité. Mais selon des plans différents. Oui, l'individuation joue différemment au plan vie végétative, au plan vie passionnelle, au plan vie spirituelle. L'individuation est présente aux trois niveaux de ma vie. Au niveau de ma vie végétative, l'individuation détermine. Si j'ai un grand-père qui avait mal à la rate, il y a des chances qu'il y en ait des conséquences. Tandis que je ne dis pas, si j'ai un grand-père qui avait la rate, je suis donc dans qui avait mal à sa rate, je suis dans l'impossibilité de la métaphysique. J'ai un grand-père qui avait mal à l'estomac, qui était alcoolique. Ça peut arriver. À cause de ça, puis-je faire de la métaphysique? Oui. Parce que la métaphysique dépend de mon âme spirituelle, créée par Dieu, et pas par mon grand-père. Heureusement. Comme ça, je peux faire de la métaphysique. Mais l'exercice de ma vie intellectuelle va en dépendre. C'est pour ça que les dents des petits-fils sont agacées. Si vous prenez des raisins verts, comme dit l'Écriture, les dents des petits-fils sont agacées. exercice. Alors, c'est tout le problème, donc, de la personne qui assume l'individuation, de la subsistance qui assume l'individuation, et qui lui donne une autonomie propre. Alors, ensuite, quelles conséquences aurait une philosophie qui partirait de la subsistance comme d'un point de départ? Pourrait-elle encore parler de l'âme? Une philosophie, vous voyez, qui identifie principe et subsistance. Est-ce qu'on serait ça? C'est une philosophie qui ne distingue plus suffisamment le tiesti et le pos. Et je crois que c'est l'origine de l'ontologisme. Je m'explique. C'est de la critique ce que je fais. Mais c'est quand même intéressant. Parce que tout ce qu'on appelle le thomisme suarésien, plus ou moins suarésien, parce qu'il y a du plus et du moins, de fait, comme il part de la théologie, et qu'en théologie, le tiesti et le pos sont toujours liés. Parce que la théologie regarde le comment. Saint Thomas le dit. Le comment de l'être de Dieu. Le comment de Dieu. Le comment de la grâce. Puisque je ne connais pas le quid. Je ne connais pas les principes propres de Dieu. Donc, par le comment, j'atteins le quid. C'est le propre de la théologie. La pensée théologique, par la foi, adhère au mystère. Et le mystère existe, il subsiste. C'est le mystère existant auquel j'adhère. Mais je ne connais pas ce qu'est ce mystère. La quidité de ce mystère. Les principes propres de ce mystère. J'adhère au mystère de la très sainte Trinité par les trois personnes divines. Et je dis que ces trois personnes sont dans l'unité. Je ne comprends pas. Donc, en théologie, le quid, le comment et le quid sont toujours liés. Pour les distinguer, il faudrait connaître ce quid. Vous voyez que le cheminement philosophique est inverse. Je connais le quid. D'abord, ceci existe. J'en recherche le quid, les principes propres. La substance, puis, ensuite, le pos. Comment ? Le je suis. Et donc, je distingue toujours le quid et le pos. Or, la subsistance, où est-ce qu'elle se situe ? Elle ne se situe pas au niveau du quid. Elle se situe au niveau du pos, du comment. L'ousia subsiste. Oui. Quand je parle de l'ousia, je suis au niveau des principes propres. Si je parle de la subsistance, je suis au niveau du comment de cette subsistance. J'espère que vous voyez bien ça. Donc, c'est par le principe que je rejoins la subsistance. C'est juste l'inverse de la démarche de la foi. Et le philosophe, dans son analyse, distingue bien les principes propres et la manière dont ces principes subsistent. Dans la manière manière dont ces principes existent. La substance saisie au niveau métaphysique dans toute sa pureté, je dis tout de suite, cette substance de fait n'existe dans notre monde physique que liée au monde physique. Donc toujours en assumant la matière, en assumant la quantité. Elle existe toujours d'une manière précaire, avec des possibilités de tremblement apocalyptique, puisqu'elle existe liée à la matière, liée au devenir. Ce qui est indivisible est lié au devenir. Ça, c'est sa manière d'exister. Mon âme spirituelle est liée au monde physique. Elle ne peut pas exister autrement. Je distingue toujours le pos et le quid. Ce qu'est la substance comme principe propre et la manière dont elle existe. Si, au contraire, j'ai une pensée philosophique qui vient de la théologie, qui laïcise la pensée philosophique, la pensée théologique, ce que fait Suarez. À ce moment-là, la distinction du comment et du quid ne sera jamais faite. Et ça explique, vous voyez, comment en scolastique, la substance est constamment regardée au niveau du comment. Et ceci, on le verra dans la décadence de Descartes. La substance est regardée comme un sujet. Substance première ou substance seconde. Et donc ce n'est pas la substance principale. Comme un sujet, ou sa manière d'exister dans ma pensée. Je la pense selon un mode universel. La substance, autrement dit, la substance au niveau prédicament, c'est une substance qui est toujours liée à sa manière d'exister. Parce que ce n'est pas au niveau métaphysique. Seule la substance saisie au niveau métaphysique est saisie comme un principe propre. Et à ce moment-là, elle est saisie au-delà de sa manière d'exister. C'est pour répondre à la question posée. C'est évident que si je commence par le problème de la subsistance, je n'arriverai jamais à saisir la substance dans toute sa pureté. C'est-à-dire, je ne saisirai jamais la ratio substantielle. La ratio substantielle, je ne peux la saisir que quand je saisis la substance comme un principe propre. Tant que je reste au niveau de la substance liée à la subsistance, je ne la saisis pas dans toute sa pureté. Donc c'est tout le problème du pos et du tiesti. C'est tout le problème. Ce qu'est un principe et la manière dont ce principe existe. Vous voyez ça à peu près, avec un petit tremblement de terre. Bon, je n'insiste pas plus. Mais ça, c'est une réponse à une question. Alors, continuons d'entrer dans ce problème du « je suis ». Ne le quittez jamais, hein, autrement vous perdez pédale. Vous n'êtes plus dans une réalité concrète. Faites l'inventaire de votre je suis. Quoi. Faites cet inventaire. Je suis dans mon corps. De façon tout à fait individuée. Je suis dans mon corps. Je suis dans ma pensée. Vous voyez ? Je prends bien l'ordre inverse de Descartes. Cogito ergo sum. Ego sum, ergo cogito. Je suis. C'est vrai que je suis de temps en temps dans ma pensée, de temps en temps. Je suis de temps en temps dans mon corps. Cogito est vu à partir du je suis, qui est lié, associé. Tandis que pour Descartes, cogito ergo sum. Le ergo, je veux bien le mettre entre parenthèses. Les bons cartésiens disent qu'il faut le mettre entre parenthèses. C'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de raisonnement au sens absolu. Il y a une intégration. Mais voyez, le sum est intégré dans le cogito. Tandis que, pour nous, je pars du je suis et je suis. Je ne dis pas du tout que le cogito, que le sum est intégré dans le cogito. C'est l'inverse. Je peux donc par là maintenir que l'être est avant la pensée. Tandis que pour Descartes, l'être, la pensée, est avant l'être. Un ordre inversé. Ça, c'est très très important pour comprendre ce que nous faisons. Mais nous côtoyons Descartes, mais nous avons juste l'inverse. Je pars du je suis, avec toute la force du je suis, avec toute l'affirmation du je suis, qui implique ceci est, nous l'avons vu. Et donc, le je suis intègre toute ma vie végétative. Je suis capable de m'endormir. Et tous les soirs, quand vous vous endormez, vous faites un acte d'une générosité extraordinaire, puisque toute votre autonomie, vous la perdez. C'est pour ça que le gosse n'aime pas dormir. Et la grande personne cherche le sommeil. Toute la différence entre le gosse et la grande personne. Et la personne mûre, fatiguée, cherche le sommeil. Et voyez qu'en cherchant le sommeil, qu'est-ce qu'on fait? On se remet à l'ordre cosmique. perdez votre autonomie. Et votre vie végétative devient tout quand quelqu'un dort. Il n'y a plus d'autonomie. Le cogit, le je suis se tait. Et il y a le ronflement qui prend la place. Et le ronflement est cosmique. On ronfle. Je ronfle. Pas du tout. Pas du tout. Parce que dès que vous prenez conscience que vous ronflez, vous arrêtez. C'est on ronfle. C'est l'univers qui ronfle. Dans le vivant. Mais, donc vous passez de l'autonomie à l'abandon à l'univers. Vous vous remettez à l'univers. Et le gosse qui a très peu d'autonomie a très peur de la perte. L'homme fatigué, qui est fatigué, désire perdre son autonomie et se remettre en toute confiance à l'univers, au cosmos. Il s'en remet à l'univers. Il fait confiance. Voyez, c'est très important de dire ça, vous voyez, parce que ceux qui ne veulent pas se remettre au sommet à Dieu, alors le sommet chrétien est autre chose. Il n'y a pas que la famille chrétienne, il faudrait l'hebdomadaire du sommeil chrétien. Non, le sommeil chrétien, c'est tout à fait différent. Parce que vous vous remettez à Dieu. Et biologiquement, vous remettez quand même à l'univers qui est dans les mains de Dieu. Puisqu'il y a le sommeil païen et il y a le sommeil chrétien. Je me remets entre les mains de Dieu. Et c'est sûr, ça. Et vous voyez, on sent ça avec acuité quand vous subissez une opération. On vous pique. Puis, vous perdez le contrôle de ce que vous êtes. Donc vous perdez votre autonomie. C'est un sommeil profond, artificiel. Qu'on n'aime pas, qu'on ne peut pas aimer. Parce que vous vous en remettez à ce moment-là, non plus dans le cosmos, dans les mains du chirurgien. Et c'est pas drôle. Parce que c'est se remettre dans une position où on sait qu'on va violenter votre corps. On le fait pour un bien. On le violente quand même. Oui. C'est très curieux. Ce serait intéressant de regarder tous les degrés de confiance. Remise totale. Il y a une remise totale au tout. Et ceci est naturel. Il y a un sommeil artificiel. Il y a un sommeil chrétien. On se remet au tout. On se remet dans les mains de Dieu. On se remet dans les mains du chirurgien. On se remet dans les bras du cosmos. Il est toujours très accueilli. Qui est toujours très maternel. Oui, ceci, c'est la perte de la conscience du je suis. C'est intéressant parce que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. J'en parle maintenant parce que c'est intéressant de voir qu'il y a une possibilité de perdre la conscience du je suis. Et on la perd tous les jours. Du moins si on dort tous les jours. Et c'est quelque chose de très curieux. Parce que ça montre que le je suis qui a un absolu en soi, je suis. Et cependant lié à la précarité du corps, et parce qu'il est relié à la précarité du corps, il peut se remettre entièrement à cette précarité. Et c'est le sommeil. Et cette précarité du corps peut se remettre au tout cosmique. Quand vous dormez, vous vous remettez. Quand vous avez conscience, tous les jours, une certaine volonté de dire « je vais dormir ». C'est l'heure « je vais dormir ». Et c'est très curieux, vous voyez, les personnes qui sont trop fatiguées ou qui ont des déficiences très grandes, dont la précarité est très forte, au niveau biologique, font une peine énorme à l'acceptation de ça, inconsciemment. Alors quand quelqu'un qui est en pleine santé, un sportif, ben, il dort n'importe où. C'est une bonne santé, il est fatigué. Ben, il dormira n'importe où. Il n'y a aucune difficulté de s'en remettre à la précarité. C'est-à-dire sportif, c'est pas étonnant parce que